Alors, pour les peut-être les parents qui ne sont pas habitués, alors voilà, les enfants peuvent pleurer, mais ils sont bien pris en charge. Si vraiment ils pleurent trop, eh bien, les personnes qui s'en occupent vous les ramèneront. On sait que les mamans, elles entendent le cri de leur enfant. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas, ils sont bien traités, tout se passe bien. Voilà. Bon. Ce matin, c'est Jean-Luc qui va nous apporter le message. Nous rendons un culte à notre Dieu. Et il s'est fait connaître, il s'est révélé à nous par sa parole qu'il nous a transmise et que le Saint-Esprit nous révèle et révèle à nos cœurs. Alors, on va prier pour Jean-Luc, que ce soit encore le cas ce matin, qu'on le connaisse mieux, lui, le seul vrai Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Seigneur, notre Dieu, je te remets mon frère pour ce temps, Seigneur, où nous partageons la parole. Seigneur, nous sommes tes rachetés et tu as mis dans le cœur de Jean-Luc, Seigneur, cette paix, cette joie, et il a à cœur de partager. Frère, tu l'as donné, Seigneur, pour l'édification du corps. Alors je te le confie ce matin, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse agir librement parce que tu as déposé sur son cœur, qu'il soit libre, Seigneur, aussi de tout ce que l'ennemi pourrait venir entraver, manigancer, Seigneur. Et que je te remets aussi, Seigneur, chacun d'entre nous, que tout ce qui peut faire obstacle, encombrer, Seigneur, soit maintenant ôté et que ta parole puisse tomber avec douceur, qu'elle puisse être reçue avec douceur dans les cœurs des uns et des autres. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Amen. Bonjour à tous. Est-ce que vous allez bien? Bon, amen. C'est déjà ça de prix. Merci Seigneur pour le temps d'adoration que tu nous donnes dans chaque mot, chaque parole de la Bible que nous pouvons chanter, que ça s'écrive dans nos cœurs un petit peu plus. Et ce matin, j'ai pris un titre qui va s'afficher. Voilà. Vous le voyez? Vous n'avez pas envie de repartir? Saint ou pécheur repenti? Et je dois dire que c'est un thème qui m'a vraiment bousculé il y a plusieurs années. Et je me souviens d'une discussion avec un ami, je pense qu'il y a au moins 15 ans, où nous nous sommes affrontés sur ce terme, parce qu'il me disait, mais nous sommes saints. Et il y a toujours le oui mais, vous savez bien. Et donc je n'ai fait que lui exposer des oui mais. Et j'ai relu il y a peu de temps que c'était vraiment très important de se considérer comme des saints. Puisque le Seigneur nous appelle ainsi, ça fait un peu trop de bruit là. Puisque le Seigneur nous appelle ainsi, c'est la vérité. Puisque dans la parole, il est parlé des saints. Vous savez combien... Enfin, je vais faire un sondage d'abord, avant d'aller plus loin. Si je vous demande de lever la main, si vous êtes chrétien, allez-y. Je vois, il y a une immense majorité, merci Seigneur. Et je vous demande de lever la main, si dans le fond de votre cœur, vous savez que vous êtes un saint ou une sainte. Ouais, il y en a moins. Il y en a moins. Et je vous comprends, je ne vais surtout pas vous blâmer. Mais ce dont je suis sûr, c'est que la parole de Dieu ne ment pas. La parole de Dieu ne ment pas. Et je veux que la vérité soit au fond de nos cœurs, gravée, et qu'elle ne s'enlève jamais. Parce que si nous nous considérons toujours comme des pécheurs, repentis, certes, L'ennemi a attaqué notre véritable identité de saint. Il est important de savoir que vous êtes des saints et des saintes quand vous appartenez au Seigneur Jésus. Oui, des saints et des saintes qui pêchent encore. Là, on est d'accord. On va continuer. Alors, savez-vous que il y a un certain nombre de fois où il est parlé de chrétiens dans la parole. À votre avis, combien de fois? 3 fois. Et alors, saint, pour dire, parce que saint, c'est employé sur de multiples expressions et définitions, mais saint au sens de peuple de Dieu, des enfants de Dieu, c'est plusieurs dizaines dans le Nouveau Testament. Alors, il y a forcément un petit problème, un petit décalage, quoi. Hein, puisque nous avons peur de dire que nous sommes des saints. Et bien sûr, en tout cas pour moi, ça s'attache à ce qui est l'idée qui est répandue dans le monde et une image qui nous dérange, qui est l'image venue du catholicisme. Et donc la version catholique nous dit que c'est un processus de reconnaissance qui se passe sur la biographie du candidat, ses œuvres, les témoignages de ceux qui l'ont connu, cette personne. 3 critères sont alors essentiels dans le processus de reconnaissance. Être mort en odeur de sainteté, c'est-à-dire avoir eu un rayonnement spirituel après sa mort. Réputation de sainteté qui doit être spontanée, durable, croissant continuellement et généralisée. Avoir des témoins qui attestent de son martyre ou de sa vertu héroïque et doit avoir accompli au moins 2 miracles. Et c'est vrai que cette définition-là, vous vous dites, j'ai pas fait ça, ou alors je ne suis pas à ce niveau-là, quoi. Et puisque de temps en temps, on entend parler de ce terme de quelqu'un qui va être béatifié, eh bien, ça a influencé toute la société qui est quand même encore sous l'influence du catholicisme. Et donc, petit à petit, pour moi, cette valeur du mot « saint » a perdu, est sortie de notre langage. Et je lisais ça ce matin. John Wesley a dit que ce qui est toléré par une génération, c'est vrai pour plein de choses, hein, ce qui est toléré pour une génération est adopté par la suivante. Si un mensonge est toléré dans une génération, imaginons la mienne, dans celle de mes enfants, cette chose-là va être acceptée. Alors Seigneur, quand nous sommes devant ta parole, nous voulons être sérieux. Et nous voulons vraiment être conduits, inspirés par toi, et que ta vérité, seulement ta vérité, s'écrive dans notre cœur, et rien d'autre. Donc, pour revenir à la parole, un Corinthiens 1, donc au verset 2, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Christ Jésus, appelés à être saints, et à tous ceux qui, en quelque lieu que ce soit, invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Voilà comment Paul parlait aux frères et sœurs donc, de Corinthe, mais aussi d'ailleurs, et nous parle encore. On peut lire aussi Hébreux 2,11, car celui qui sanctifie, et ceux qui sont sanctifiés, c'est-à-dire les chrétiens, sont tous issus d'un seul. C'est la raison pour laquelle il n'a pas honte de les appeler frères. Le Seigneur Jésus-Christ nous appelle frères, nous considère comme de la même nature que lui. Est-ce que vous discutez la sainteté de Jésus? Absolument pas. Il n'a pas honte de nous appeler saints. Et 1 Pierre 1, qu'on va lire tout à l'heure, verset 16. Vous serez saints, car je suis saint. Dieu sanctifie ceux qu'il sauve. Nous-mêmes, nous en sommes incapables, vous le savez. Mais le Saint-Esprit a mis sa nature sainte en nous le jour où nous sommes nés de nouveau, a scellé le caractère, la nature de Dieu dans notre cœur. Dans le plus fort intérieur, ces choses sont scellées. Et lorsque, malheureusement, vous péchez pour une raison ou pour une autre, vous savez que ça ne va plus du tout. Votre esprit vous rappelle, vous met dans une situation inconfortable en vous disant « Non, 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 ce n'est pas comme ça que je veux que tu agisses. » Il nous reprend. Mais si à l'inverse, nous ne sommes pas repris, on a de fortes raisons de douter de la nouvelle naissance. Quelqu'un qui fait le mal ne s'en repent pas. Il doit vraiment se poser la question, mais est-ce que j'appartiens à Jésus? Parce que je le sais par expérience, on l'a partagé maintes et maintes fois avec des gens qui sont ici, qui sont ailleurs. Lorsque on a mis les pieds dans le plat du péché, il ne faut pas des jours et des jours pour s'en rendre compte. Il faut quelques secondes souvent. C'est instantané. Et c'est vraiment cette nature de sainteté qui est installée en nous, qui nous rappelle ce qui est bien, ce qui vient de la part de Dieu, mais aussi à l'inverse, en quoi nous péchons contre Dieu. Et il me venait à l'idée aussi de... Nous sommes donc devenus saints. Quelqu'un qui sort de prison, on peut dire c'est un prisonnier libéré. Mais on peut dire aussi c'est un homme libre. Je ne pense pas que toute sa vie, il va dire « je suis un prisonnier libéré ». Il sait qu'il est un homme libre. Alléluia ! Il a payé sa dette à la société. Il est un homme libre. Quand nous nous sommes donnés à Jésus-Christ, il a fait de nous ses enfants et des enfants libres du péché. Amen. Alors, on va lire ce merveilleux chapitre de 1 Pierre 1. Vous le connaissez ? Si vous ne le voyez pas bien, vous vous rapprochez. On a une mauvaise habitude, hein, c'est d'occuper les sièges à l'arrière avant d'occuper ceux à l'avant. Ça devrait être l'inverse, mais nous-mêmes, on s'est retrouvés un petit peu décalés. Là, je ne sais pas pourquoi ce matin, mais on devrait venir devant, n'est-ce pas ? 1 Pierre 1. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux élus qui sont étrangers dans la dispersion, au pont, en Galatie, en Cappadoce, en Asie et en Bithynie. Élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit. Vous voyez bien que ça ne vient pas de nous, là. Pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. C'est toujours vrai. Alléluia. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour une espérance vivante. Vous pouvez dire amen à tous les versets. Hein. Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui vous est réservé dans les cieux. À vous qui êtes gardés en la puissance de Dieu, par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Vous en tressaillez d'allégresse, quoique vous soyez maintenant, pour un peu de temps, puisqu'il le faut, affligé par diverses épreuves, afin que votre foi éprouvée, bien plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Sans le voir encore, vous croyez en lui et vous tressaillez d'une allégresse indicible et glorieuse, en remportant pour prix de votre foi le salut de vos âmes. Les prophètes qui ont prophétisé au sujet de la grâce qui vous est destinée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils se sont appliqués à découvrir à quelle époque et à quelles circonstances se rapportaient les indications de l'Esprit de Christ qui était en eux et qui d'avance attestait les souffrances de Christ et la gloire qui s'ensuivrait. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient ministres de ces choses. Maintenant, elles vous ont été annoncées par ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Et les anges désirent y plonger leur regard. Que c'est merveilleux! Quel privilège nous avons! C'est pourquoi affermissez votre pensée, soyez sobre, ayez une parfaite espérance en la grâce qui vous sera apportée lors de la révélation de Jésus-Christ. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois dans votre ignorance. Mais de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saint dans toute votre conduite, puisqu'il est écrit « Vous serez saint, car je suis saint ». Et si vous invoquez comme père celui qui, sans considération de personne, juge chacun selon ses œuvres, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur terre. Vous savez en effet que ce n'est point par des choses périssables, argent ou or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, héritée de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Il a été désigné d'avance, avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu, qui l'a ressuscité d'entre les morts et lui a donné la gloire, afin que votre foi et votre espérance soient en Dieu. Après avoir purifié vos âmes dans l'obéissance à la vérité en vue d'un amour fraternel sincère, aimez-vous les uns les autres ardemment et de tout cœur. Vous qui avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Amen. Et dans ce texte, il y a tout ce que nous sommes. Et c'est vrai qu'on peut, je vous disais, dire amen à chaque verset. Et notre identité, elle est écrite là. L'identité qui nous vient de Jésus-Christ, plus notre ancienne identité. Nous sommes des saints qui pêchent encore. Ou alors un pécheur qui essaye de marcher dans la sanctification. Mais dans quelle case on se met? Et c'est vrai que là où on va se mettre, si c'est dans la case du pécheur qui essaie de marcher dans la sanctification, ou dans la case d'un saint qui pêche encore, c'est vrai, mais qui sait qui est saint, il va se passer autre chose dans votre vie. Le pécheur peut se dire, je suis comme tout le monde. Après tout, c'est comme ça. Je reste un pécheur. Celui qui, dans le fond de son cœur, sait qu'il est saint, se tourne vite fait vers le Seigneur. Appelle et crie à lui, Seigneur, j'ai péché contre toi, fais-moi grâce. Fais-moi ma grâce, Père éternel. Je t'en prie. Et d'être saint, ça nous tient dans l'humilité, ça c'est sûr. Nous savons dans quel équilibre nous sommes, mais ça nous tient dans l'humilité. Ça ne nous gonfle pas la tête. Et ça nous tient aussi dans cet état de sainteté, parce qu'en fait, on recherche, on se dit, mais je suis à la ressemblance de Jésus-Christ. Il ne me dit pas des choses qui ne sont pas possibles, c'est lui qui les fait. Et l'ignorance des vérités bibliques et de l'importance de ses mots, de ce qu'il a accompli, nous devons décider de nous en saisir et de ne pas repousser la vérité, mais de dire, Seigneur, tu as écrit ça. Je l'ai ignoré. Ou j'ai cru que, après tout, ce n'était pas mon affaire, puisque je suis un pécheur. C'est bien différent quand vous savez que vous êtes un saint. Et dans l'identité, vous savez que, j'en ai parlé quelques fois, c'est pas ce que nous faisons qui détermine qui nous sommes. Mais c'est ce que nous sommes intérieurement qui détermine qui nous sommes. Ce n'est pas notre péché qui nous détermine. C'est parce qu'un jour, nous avons été convaincus de péché, de justice et de jugement, que nous sommes venus aux pieds de Jésus-Christ et que nous avons dit, Seigneur, j'ai péché contre toi. Mon péché m'accuse. Je te demande pardon. Je te demande, Seigneur, ton pardon. Et que nous avons reçu, en nous donnant à lui, que nous avons reçu sa vie. Alors, pour illustrer un petit peu, plus pratiquement, pas que pour les enfants, vous voyez, j'ai un pointeur. Ça, c'est quoi? Ça ressemble à quoi? Une poule? Ou un aigle plutôt, hein? Donc, c'est, on dit que c'est une légende indienne. C'est, je l'ai entendu il y a très longtemps. J'ai vu que c'était repris toujours. Et c'est l'histoire donc, d'un œuf d'aigle qui est trouvé dans la nature et que le fermier, l'agriculteur, il prend cet œuf et le met à couver à une poule qui était en train de couver. Et donc, quand l'œuf éclot, ce n'est pas un petit poussin de poule qui sort, mais un aiglon. Mais il va grandir jusqu'à être adulte dans la basse-cour. Et il demande à sa maman, mais je ne suis pas comme les autres, moi. Tu vois bien, j'ai un bec crochu, j'ai des grandes ailes, je ne suis pas comme vous. Puis la maman lui dit, mais t'en fais pas, tu es avec nous, quoi. Te focalise pas sur ton état, quoi. T'es comme nous, quoi. Et puis un jour, il voit des aigles dans le ciel, majestueux, qui volent, qui surfent sur les courants, etc. C'est majestueux, un aigle qui vole. Et lui, il le voyait, et puis il dit, mais c'est étonnant, quoi. Et puis, je voudrais être comme eux, quoi. Et la maman lui dit, mais non, t'es une poule. C'est pas possible, t'es une poule, t'es comme nous. Et puis l'agriculteur, le fermier, il prend l'aigle, il monte dans le haut de sa grange, puis il fait une tentative, il jette dans le vide, puis l'aigle, il se casse la figure, quoi. Mince. Mais il se dit, pourtant, c'est un aigle, il doit voler. Et donc il réessaye et puis il dit à l'aigle, mais tu es un aigle, déploie tes ailes, envole-toi. Et deuxième essai, il jette l'aigle et l'aigle prend son envol. Alléluia. Il a retrouvé et il fait la nature profonde. Il est un aigle, il n'est pas une poule, il est fait pour voler sur les cimes. Et vous en verrez tout à l'heure peut-être. Et donc, c'est pas pareil. Son identité n'était pas bonne. Alors nous, si notre identité n'est pas bonne, nous pouvons rester, croupir, peut-être dans une basse-cour, alors que nous ne sommes pas faits pour ça. Et notre identité, étant un saint, pensez à Jacob. Tout petit, il savait que le Seigneur lui avait parlé. Bien sûr, peut-être il a été arrogant auprès de ses frères. Et puis bon, les histoires de famille. Il n'a pas été compris, mais ce qui était disposé dans son cœur, il le savait, il l'a gardé jusqu'à la fin. Il a pu être un outil précieux pour le peuple de Dieu. Amen. Et Henry Ford, qui est le monsieur qui a créé les automobiles Ford, donc ça fait très longtemps, assez fataliste, et disait que vous croyez ou non à votre réussite, vous avez raison. Ben oui, vous allez faire ce que vous croyez, quoi. Que vous croyez ou non à votre réussite, vous avez raison. Ben, vous allez donner raison à ce que vous dites, à ce que vous pensez, quoi. C'est pour ça qu'il est important de penser juste, d'aligner nos pensées sur la parole de Dieu, de se laisser reprendre par elle. L'Esprit Saint ne nous laisse pas tranquilles sur des choses comme ça. C'est vrai que ma discussion avec mon ami, là, je l'avais oublié. Mais le Saint-Esprit ne voulait pas que je reste comme ça. Quand j'ai lu ça, hop là, il y a eu un électrochoc. Je dis, c'est certain là. Tu as fait fausse route, mon gars. Donc, nous allons continuer. 2 Corinthiens 5, 17. Et la version parole vivante, parce que c'est un verset que vous connaissez et qui, bon, peut-être dans cette version, vous parlera encore mieux. Si quelqu'un entre en communion vivante avec le Christ, il devient un homme nouveau. Il est recréé. L'ancien état est dépassé. Ce qu'il était autrefois a disparu. La nouvelle création a déjà commencé. Voici, tout est devenu nouveau. Amen. Dans le fond de notre cœur, c'est ce qui s'est passé. Et 1 Pierre 2 nous dit, versets 9 et 10, « Vous, par contre, vous êtes une race élue. » Une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ô Seigneur, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde, que c'est merveilleux! Que c'est merveilleux. Et la Bible, c'est vrai, quand elle va parler de pécheurs, c'est bien qu'ils sont toujours dans le péché. Elle ne parle pas de pécheurs repentis. Quand elle parle de personnes qui appartiennent au Seigneur, ils sont chrétiens ou ils sont saints. Donc je reviens en arrière, je reviendrai à celle-là tout à l'heure. Et donc nous sommes devenus des êtres spirituels, réconciliés, ça veut dire beaucoup de choses, hein. Réconciliés, on a fait la paix avec Dieu. Il y a longtemps que Dieu voulait faire la paix avec nous. Mais par Jésus, nous avons fait la paix avec Dieu, en relation avec Dieu, puisque le péché ne nous sépare plus. Ce qui est nouveau a pris la place de ce qui est mort. La nature spirituelle de Christ a pris la place de notre nature pécheresse. Une nouvelle conscience de ce qui est saint et de ce qui est péché. Et cette nature pécheresse, elle est morte en nous. Ça ne veut pas dire que le péché n'existe plus. Et que Satan n'agit plus non plus. vous le savez, et nous retombons dans le péché chaque fois que nous décidons d'aller tout seul, indépendamment de Dieu. Ce caractère d'indépendance, ô Seigneur. Que j'en ai souffert, que je peux en souffrir encore, de décider tout seul. Plus dans la relation, de chercher ce que Dieu veut me dire sur telle et telle orientation. La séduction du péché, bien sûr, est là, sous toutes ses formes aujourd'hui. Et Satan, bien sûr, tord les vérités de Dieu dans tous les sens, afin que nous soyons perturbés. Mais aussi tous nos passés et tous les liens iniques, les liens sataniques qui nous ont atteints. Et nous devons demander au Seigneur, parce que nous venons quand même dans un drôle d'état, de demander au Seigneur d'éclairer notre vie. Quand il y a des choses qui collent, qui ne lâchent pas, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Révèle-nous la vérité sur ce péché qui nous tient. Que nous le confessions, que nous demandons la prière. Et Seigneur, il fait grâce, il amène à la lumière ce qui est dans les ténèbres. Ça, vous pouvez en être sûr. Et il nous conduit à la repentance. Et donc, bien sûr, nous sommes appelés à la sanctification, c'est-à-dire à la marche dans la sainteté. Ça, c'est une illustration de Manfred Angeli, qui a écrit un merveilleux livret qui s'appelle Makarios. Si vous le trouvez, c'est une perle, je peux vous dire. Et cette illustration, alors vous voyez pas très bien, effectivement, parce que moi je vois déjà pas trop bien. Sur mon ordi, ça allait. Hein. Je me suis prêché à moi-même, ça allait. Vous voyez une maison plus petite, une maison plus grande. Vous voyez une petite porte entre les deux et une flèche. Et puis derrière, il y a un crochet. On reviendra au crochet tout à l'heure. Alors ici, il y a le vieil homme et ici, il y a l'homme nouveau. La sanctification, c'est le vieil homme qui passe à l'état d'homme nouveau. Et petit à petit, découvrant les vérités de Dieu, découvrant l'amour de la vérité, et cet amour de la vérité transformant son cœur, il va passer de plus en plus de temps dans la nouvelle maison. Derrière ce crochet, là, c'est quelque chose qui nous retient. C'est comme si nous avions une ceinture élastique ou les bretelles et que nous étions attachés. Et donc, cet élastique puissant nous retient à nous ramener dans l'ancienne maison. C'est ce péché tenace. Mais vous allez voir que plus vous avancez, l'élastique, elle va se relâcher, elle ne va pas tenir. Et je pense que le Seigneur, il y a des moments où il coupe des élastiques, elle devient lâche. Et vous pouvez rentrer beaucoup plus facilement dans la nouvelle maison. Ça, c'est une image de la sanctification. C'est un processus de changement progressif, donc c'est-à-dire qui est en marche toute notre vie, par lequel nous devenons ce que nous sommes déjà à la nouvelle naissance. Et ce processus, il peut être lent dans certains domaines, beaucoup plus rapide dans d'autres, mais aussi irrégulier, avec des hauts et des bas, sur des comportements qui sont attachés dans nos vies. Mais rappelez-vous que vous êtes saints, que vous n'êtes plus séparés de Dieu, même si ces choses peuvent vous tenir encore. Vous êtes saints à partir du moment où vous avez confié votre vie au Seigneur. Amen. Et je sais que plus de vérité, plus de révélation, plus d'humiliation aussi, hein, mais plus de lumière nous conduit dans cette nouvelle maison. Et plus nous passons de temps dans cette nouvelle maison. Amen. Et c'est aussi l'exemple, c'est un sujet que j'avais pris, mais je ne sais plus il y a combien de temps, ça fait plusieurs années déjà. Et des maisons neuves en campagne où j'ai connu où les gens venaient habiter leur nouvelle maison. Et le midi, même le soir, au lieu d'aller manger dans la nouvelle cuisine, ils restaient dans le garage pour ne pas salir. Ça peut vous paraître étonnant. Bon, je suis issu de ce milieu-là, donc je comprends un petit peu mieux. Où les gens savaient qu'ils avaient travaillé au champ ou auprès des animaux. Ils n'étaient pas propres, ils n'avaient pas envie de salir la nouvelle maison. Et il y avait cette cuisine qui était dans le garage ou au sous-sol, et puis ils n'allaient pas dans la belle cuisine. Donc profitez de la nouvelle cuisine. Montez dans la nouvelle cuisine. Montez dans la nouvelle maison. Amen. Romains 8, 23. Car nous aussi qui avons reçu l'Esprit comme avant-goût de la gloire, nous gémissons du fond du cœur en attendant d'être pleinement établis dans notre condition de fils adoptif de Dieu par la pleine libération de notre corps. Alors, je n'ai pas le temps, mais vous lirez la fin de Romains 7 et début de Romains 8. C'est promis ? Et vous verrez ce que Paul en dit. C'est toute sa démonstration. Prenez le temps de le lire, de le relire, chercher d'autres versions, mais de comprendre. Il était dans cet état, comme nous. Mais je peux dire, c'est sûr qu'il ne discutait pas, il savait qu'il était saint. Et nous sommes donc dans un état entre lequel nous sommes déjà et vers lequel nous allons. Et nous travaillons à être pleinement dans la sainteté. Philippiens 2, 12 et 13. Mettez votre salut en action, car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Il a mis sa sainteté en nous. C'est connecté, là. Notre esprit est connecté à l'esprit de Dieu. Nous ne sommes pas seuls. Recherchez la connexion de l'esprit de Dieu. Amen. Vous n'êtes plus seuls. Mais par rapport à ça, il y a aussi la force d'un engagement ferme. Il n'y a plus à se redire. Simplement, je ne devrais pas faire ça. Parce que je ne devrais pas faire ça, pour moi, ça laisse une porte entrouverte, quoi. On sait qu'on ne doit pas faire ça, ce type de péché. On sait qu'on ne doit pas se salir avec ces choses. Je ne devrais pas faire ça. Pour moi, ça laisse la porte ouverte. Et la porte ouverte, elle va se réouvrir pour votre plus grand malheur et vous couper l'intimité avec le Seigneur. Donc, par rapport à cet engagement, faites-le sérieusement. Faites-le dans la prière. Demandez le soutien d'un frère, d'une sœur. Lâchez pas l'affaire. Amen. Vous êtes des saints. Une nation sainte. Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Il fuira loin de vous. Amen. Je vais passer assez vite, mais au sein, le Seigneur a donné des promesses et une responsabilité, c'est vrai. Rien que celle-là, ça peut vous faire trembler un petit peu, prendre en considération de qui vous êtes. 1 Corinthiens 6, 2 et 3. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde ? Et si c'est par vous que le monde est jugé, seriez-vous indigne de juger les affaires de moindre importance ? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges ? Pourquoi pas, à plus forte raison, les affaires de cette vie ? Et est-ce que ça veut dire que les saints, ils ont une tête comme ça ? Ils ont l'auréole ? et qu'ils ont la tête gonflée, les chevilles gonflées. Eh bien, moi, je ne crois pas du tout. Parce que la parole de Dieu, c'est une vérité qui nous libère et qui nous amène à l'humilité. On n'est pas en train de se gonfler la tête, là, et les chevilles, et en train de vous booster pour la semaine. Ces paroles sont des paroles qui sortent du livre des livres, le livre de la vie que Dieu nous a confié. Et donc, nous avons une responsabilité parce que le Seigneur nous a dit que nous étions et nous sommes saints. Amen. Une autre chose que nous ne devrions jamais faire, c'est de juger les saints. Je ne vais pas traîner là-dessus tellement il y a de choses à dire qui se passent malheureusement dans les églises, dans la bouche des chrétiens, c'est qu'on se met du côté de l'accusateur des frères. Nos bouches devraient se fermer bien plus souvent. Nous nous permettons de donner des avis sur les uns, les autres, sur les œuvres. Et je passe. Ne jugez pas et vous ne serez point jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. La miséricorde triomphe du jugement. Ceux qui sont saints, c'est Dieu qui les a appelés. Ce n'est pas moi, ce n'est pas Robert, ce n'est pas même la plus grande personne, le plus grand témoin de Jésus sur cette terre. C'est le Christ qui les a appelés. Pourquoi on se permet de critiquer, de juger ceux que le Seigneur a appelés? Il est temps de se détourner de ça. Je pense qu'un jour, je reviendrai sur ce sujet tellement il me fait mal. Il y a des fois, je baisse les bras devant ce genre de choses. Je me dis, mais ce n'est pas possible. La miséricorde triomphe du jugement. La miséricorde. Soyons miséricordieux. Et pour terminer, nous allons prendre une magnifique prière, mes amis. Dans Éphésiens 1, versets 17 et 18, « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. » Amen, de plus en plus, qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints? Oh Seigneur, ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux. Amen Seigneur. Les saints sont faits pour la lumière du royaume de Dieu, pas pour rester dans les ténèbres. Pas pour croupir dans les mensonges de l'ennemi, comme l'aigle n'était pas fait pour la basse-cour. Nous sommes devenus saints, maintenant réconciliés avec Dieu, notre Père, pour toujours. Nous sommes faits pour le louer, pour l'adorer, pour vivre et marcher dans cette sanctification. Alléluia. Alléluia. Regardez cet aigle. Est-ce qu'il n'est pas magnifique? Quand il a pris son envol, et l'aigle est dans son élément, quand le chrétien est auprès du Seigneur, dans la présence de Dieu, qu'il recherche cette présence, qu'il recherche la nourriture d'en haut. Amen. Nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons pour ce privilège ô combien immense. Tu nous as appelés, Seigneur des ténèbres, à ton admirable lumière, Seigneur. Tu as ouvert nos yeux, Seigneur. Et si les yeux ne sont pas encore ouverts ce matin, Seigneur, qu'ils soient ouverts en ton nom, Seigneur. Que ce qui est caché soit révélé. Oh Seigneur Jésus, tu es le même aujourd'hui que tu étais hier et que tu seras éternellement. Alléluia, Seigneur. J'invoque ton nom, Seigneur Jésus, sur chacune de nos vies. Tu as fait de nous, Seigneur, des êtres saints à ta ressemblance, Seigneur. Nous ne voulons plus l'ignorer, Seigneur. Nous voulons vivre, Seigneur, de l'identité profonde que tu as mis dans nos cœurs, Seigneur. Continue de la révéler, Seigneur. Nous ne voulons plus de oui mais, des saints mais oui mais. Non, Seigneur, nous ne voulons plus des mais. Nous sommes des saints, oui, Seigneur Jésus. Oui, avec toi. Oui, nous voulons te chercher, Seigneur, dans ce qui nous touche, nous salit, nous blesse, Seigneur Jésus. Afin, Seigneur, que ton Église soit sainte. Ô Seigneur, viens nous aider, Seigneur. Ô Seigneur, combien ta parole, elle est précieuse, Seigneur. Et je sais que ce matin, elle n'est pas descendue dans les cœurs, Seigneur, sans effet. Je te loue, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire. Alléluia, Seigneur Jésus. Amen.